Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, permettez-moi d'abord de vous dire à quel point je suis touché de votre invitation. Invitation des amis de Fresnay, ce qui pour moi n'est pas rien. Je sais que Guy Goupil et d'autres qui sont ici ont été aux côtés de Célestin Fresnay. Pour ma part, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais il a sans doute été, il a été un de ceux qui ont le plus marqué mon itinéraire personnel d'enseignant d'abord, de praticien de la pédagogie, et puis de chercheur ensuite. Il a été également un de ces phares qui parfois, au moment de découragement, au moment d'inquiétude, nous permet de retrouver le cap, de garder l'espoir et de se dire que même avec des programmes qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on voudrait, même dans une situation sociale qui n'est pas complètement conforme à nos voeux, il y a quelque chose de possible à faire en matière éducative, qu'il y a quelque chose de possible à faire avec les élèves, envers et contre tout, et que Fresnay l'a incarné et que ceux qui se réclament de lui l'incarnent encore aujourd'hui. Alors, ce compagnonnage avec Fresnay, pour moi, est absolument déterminant et j'ai hésité en venant ici à reprendre quelques-uns des grands thèmes de la pédagogie de Fresnay et de ses apports pour les développer avec vous. Et puis finalement, j'ai pris une autre option et je me suis dit que Fresnay lui-même, qui était si tourné vers la vie, n'aurait sans doute pas souhaité qu'on fasse un xième commentaire académique et universitaire sur son travail. Et je me suis dit, que dirait Fresnay aujourd'hui? Que ferait-il? Eh bien, il essaierait de penser ce qui est en train de se passer sous nos yeux et il essaierait de voir en quoi ce qui est en train de se passer sous nos yeux appelle des réponses éducatives, des réponses pédagogiques, appelle une mobilisation des militants qui croient encore en l'éducabilité des enfants et en la possibilité, comme cela vient d'être rappelé, d'une véritable école émancipatrice pour le peuple. Alors je vous propose un exposé et qui sera suivi, je l'espère, d'un débat avec vous le plus interactif possible. Je vous propose un exposé autour du thème « Mutation sociale, crise de l'école et pédagogie ». J'ai essayé de réunir dans cet exposé un certain nombre de remarques qui sont forcément lacunaires parce que je vais traiter en une heure beaucoup de sujets et je ne vais pas pouvoir approfondir chacun d'entre eux. Néanmoins, ces remarques sont là pour vous dire quelle est un peu ma perspective, quelle est mon analyse et surtout en quoi l'éducation moderne, l'école nouvelle et la pédagogie de Célestin Fresnay sont encore d'actualité, de formidables ressources. Alors, si vous voulez bien, je vais organiser mon exposé en 5 séries de remarques. D'abord, je vais rappeler quelques éléments sur ce qu'on pourrait appeler la modernité et ce en quoi la modernité comporte ce qu'on a l'habitude de nommer une crise de l'éducation. Ensuite, je tenterai de redéfinir, pour savoir de quoi on parle, ce que c'est que la pédagogie, en particulier sans la confondre avec les sciences de l'éducation, ni avec la philosophie, ni avec toute une série d'autres discours qui ont leur légitimité par ailleurs. Dans une troisième série de remarques, j'essaierai de m'interroger avec vous, y compris dans la perspective historique de Fresnay, et de me demander pourquoi la pédagogie a-t-elle été et est-elle encore souvent si critiquée et reste-t-elle à bien des égards si marginale. Et puis dans une quatrième partie, je clarifierai un petit peu les choses pour essayer de nous donner quelques axes forts autour desquels nous puissions continuer à avancer, avant de terminer par quelques séries de remarques autour de la pédagogie. Est-ce un don, est-ce une science, est-ce un art? Que nous dit Célestin Fresnay là-dessus et que pouvons-nous en retirer aujourd'hui? Première série de remarques donc, la modernité et la crise de l'éducation. Alors, la modernité, quand commence-t-elle? Il y a débat, certains comme Méchonic qui nous a quittés récemment, on pense que nous sommes entrés dans la post-modernité depuis déjà un certain temps. Je ne vais pas rentrer dans ces débats sur où finit la modernité ou comment la post-modernité. Disons que ce qui se passe sous nos yeux et que les sociologues, les philosophes pointent avec une accélération assez significative depuis une vingtaine d'années, c'est pour ce qui nous concerne, la faillite des théocraties, c'est-à-dire l'idée que les hommes n'attendent plus que quelqu'un ou une puissance suprême dicte leur bien et leur impose d'en haut où ils doivent aller. C'est l'émergence de ce qu'on appelle l'individualisme social, et il ne faut pas prendre nécessairement ce terme dans un aspect radicalement négatif. François de Saint-Gly, par exemple, souligne les caractères très positifs de cet individualisme. C'est lui qui a permis une forme d'émancipation de la femme, c'est lui qui a permis une forme de libération par rapport à toute une série de phénomènes d'emprise que pouvaient exercer certaines institutions un peu totalisantes, voire totalitaires sur les individus. Mais l'individualisme social, c'est aussi le fait que nous sommes, chacun d'entre nous, des individus qui cherchons notre intérêt dans un collectif qui a un peu de mal à identifier son bien commun. En effet, c'est une caractéristique forte de la modernité, c'est que la démocratie y est attenante, parce que le bien commun n'y est pas facile à trouver, et que la verticalité y est devenue totalement improbable. Verticalité improbable, c'est-à-dire que nous sommes condamnés, d'une certaine manière, à faire le chemin en marchant, comme le dit le poète Machado. Il n'y a plus de chemin tracé à l'avance, nous ne savons plus où nous allons, nul n'a écrit notre histoire, les grands récits qui jadis étaient présents dans le ciel des idées sont aujourd'hui remis en question, et nous ne savons pas s'il existe un avenir qui aurait été prédit par quelqu'un. C'est ce que on pourrait appeler la sortie de l'hétéronomie au sens de Kant. La sortie de l'hétéronomie, nul ne peut se concevoir, dit Marcel Gauchet dans son ouvrage La religion dans la démocratie, nul ne peut plus se concevoir en tant que citoyen commandé par l'au-delà. Nous ne sommes plus commandés par l'au-delà. La cité de l'homme est l'œuvre de l'homme. Nous sommes devenus en un mot métaphysiquement démocrates, dit Marcel Gauchet. Métaphysiquement démocrate, ça ne veut pas dire que nous soyons encore suffisamment mûrs pour être politiquement démocrates, ni pour être dans nos comportements démocrates au quotidien, mais nous sommes métaphysiquement démocrates parce que nous n'acceptons plus ou nous n'acceptons pas, nous autres, dans les démocraties occidentales, que ce soit du ciel que vienne notre vérité. Et nous tentons d'élaborer cette démocratie qui se cherche, qui tâtonne, cette démocratie improbable que Claude Lefort définissait ainsi. La démocratie est une forme de société dans laquelle les hommes reconnaissent qu'il n'y a pas de garant ultime de l'ordre social, dans laquelle les hommes consentent à vivre dans l'épreuve de l'incertitude. Dans ces conditions, dit-il, le lieu du pouvoir est reconnu comme un lieu vide. Là où s'indique un lieu vide, il n'y a pas de condensation entre le pouvoir, la loi et le savoir, ni d'assurance possible de leur fondement. L'exercice du pouvoir est matière à un débat interminable. Et Claude Lefort ajoute, « Les aventures totalitaires nous ont appris quel attrait exerçait la domination du haut en bas de la bureaucratie. À présent, c'est l'expansion du marché supposé autorégulateur à l'échelle de la planète qui porte un défi au pouvoir démocratique. » Tout cela pour dire que la démocratie n'est pas établie une bonne fois pour toutes et que ce n'est pas parce que nous avons des institutions censées être démocratiques que nous sommes et que nous vivons dans une démocratie. C'est probablement d'ailleurs un bien. La démocratie est à reconstruire, à réinstituer. Elle n'est jamais définitivement acquise, elle n'est jamais définitivement gagnée parce que dans ce lieu vide du pouvoir, il y a toujours des gens qui veulent s'y mettre. Et quand il n'y a pas de condensation entre le pouvoir, le savoir et la loi, il y a toujours certains énergumènes qui pensent pouvoir incarner cette condensation. Lutter contre cette tentation permanente d'occuper le lieu du pouvoir par naissance et par nature, par essence, par naissance et par nature, c'est un des défis de la démocratie et d'une démocratie qui nous reste à construire très largement. Alors, pour prolonger cela, je voudrais faire quelques remarques sur les éléments qui constituent le décor en matière éducative, parce que là nous étions sur le plan politique, de cette crise de l'éducation liée à la modernité. Quelques éléments du décor. Premier élément du décor, nous sommes passés, ça peut paraître tout à fait anecdotique, de l'enfant désiré à l'enfant du désir. D'abord, je rappelle quelque chose, mais cela va de soi pour tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, d'après les statistiques, plus de 98% des enfants qui naissent en France sont des enfants voulus, souhaités. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, absolument jamais, dans aucune civilisation. Ces enfants sont désirés, ils sont voulus, ils sont assumés comme tels. Et au-delà de l'enfant désiré, nous assistons à ce que les sociologues appellent l'émergence de l'enfant du désir, de cet enfant qui constitue d'une certaine manière l'objet de tous les désirs. Vous savez, selon la formule de François de Singly, aujourd'hui ce n'est plus la famille qui fait des enfants, c'est les enfants qui font les familles. Quand l'enfant arrive, la famille se constitue. Et c'est la présence de l'enfant qui construit la configuration et l'architecture familiale, parce que l'enfant exprime ce désir et qu'il est l'enfant du désir. Il est évidemment donc surinvesti des désirs des parents. Dans ce cadre-là, nous assistons évidemment à un brouillage relatif des relations de filiation et de transmission. Ce brouillage est fort et nous le voyons au quotidien, en particulier dans des situations difficiles ou des situations de crise. Moi qui ai enseigné il y a peu de temps dans une classe de CM2 de ZEP, il m'est arrivé de rencontrer des jeunes filles de 10 ans qui géraient le divorce de leur mère ou qui vérifiaient et surveillaient la prescription médicamenteuse du père avec lequel elle vivait seule. Cette inversion générationnelle est tout à fait inédite, complètement invraisemblable, et elle est le signe quand même d'un brouillage des relations. Dans ce cadre-là, nous assistons à la montée de deux phénomènes profondément liés chez les jeunes, le phénomène de la grande solitude, y compris de la solitude devant l'écran, parce que devant un écran on est seul, même si on est connecté à la totalité de la planète, et corollairement le phénomène du clan, du groupe, dans lequel on est bien, dans lequel on est au chaud, et qui vient prendre la place de la configuration familiale traditionnelle. Et puis, nous assistons à la montée fantastique de ce qu'on appelle les industries de programme, bien sûr la télévision, bien sûr Internet, bien sûr les petits téléphones portables et ce que chacun d'entre nous avons maintenant à notre disposition, cette quantité faramineuse et fabuleuse d'images qui produisent des effets sur les enfants que nous n'avons probablement pas encore suffisamment analysés. Ce matin, je participais au séminaire de Bernard Stiegler, qui est le directeur de l'IRID, de l'Institut de Recherche et d'Innovation, l'ancien directeur de l'INA, et qui travaille sur la télévision et l'impact des nouveaux médias sur les enfants, et qui va très loin, puisque dans son dernier livre, « Prendre soin », il parle même, à propos de la télévision, de la destruction systématique de l'appareil psychique juvénile. Destruction systématique de l'appareil psychique juvénile. En disant que nous avons là un rouleau compresseur absolument immense, énorme, qui met en permanence l'enfant sous pression, qui cherche en permanence à le séduire, à attirer son attention, qui cherche en permanence par une surenchère d'effets à capter, voire à hypnotiser son intelligence, et qui aboutit à développer deux types de phénomènes. Un phénomène de surattention devant l'écran, qui produit un phénomène d'inattention quand l'écran n'est pas là, et un phénomène de virtualisation des autres et du monde, les autres et le monde devenant en quelque sorte inatteignables ou atteignables simplement à travers ce qu'on appelle les avatars. Alors là, nous sommes devant un mouvement qui va très vite, et sur lequel nous sommes relativement peu et mal informés. Parce qu'une des caractéristiques de la modernité aussi, c'est que la culture jeune est peu lisible pour les adultes, ce qui n'était pas le cas de ma génération. Moi, quand j'avais 17 ans, Salut les copains passait sur Europe à 17h. Alors, mes parents pouvaient critiquer cette musique de barbares et de zoulous. Il n'empêche, à 17h, ils pouvaient écouter Europe 1. Il y avait assez peu de stations de radio pour qu'ils écoutent ou qu'ils tombent de temps en temps sur Europe 1. Aujourd'hui, même si un certain nombre de parents sont relativement bien informés, la plupart d'entre eux ignorent presque totalement ce que font leurs enfants sur Internet, la vitesse avec laquelle les mouvements qui se passent sur Internet s'amplifient et l'extraordinaire pouvoir qu'Internet a pris sur les adolescents et les adolescentes, par exemple. Mon collègue David Le Breton de l'Université de Strasbourg a fait une enquête absolument extraordinaire dans laquelle il montre que le phénomène de la scarification chez les jeunes filles a été multiplié environ par 10 ou 15 en l'espace de 6 mois, simplement parce que Internet s'est emparé du phénomène et qu'un certain nombre de sites, en particulier les sites gothiques, ont développé cette promotion des pratiques scarificatoires, au point qu'aujourd'hui on estime qu'une jeune fille de collège sur 3 pratique au moins de temps en temps la scarification, ce que la plupart des parents ignorent ou ne savent pas. On pourrait multiplier les exemples, j'ai pris celui-là qui est évidemment très caractéristique, mais on pourrait multiplier les exemples. Une enquête récente effectuée aux États-Unis montre que la seule référence, ça n'est plus la télévision aujourd'hui, hein, aux États-Unis, la seule référence commune des adolescents, c'est devenu YouTube. YouTube qui est un site de partage vidéo. Vous savez qu'il y a 1 500 000 vidéos nouvelles chaque jour sur YouTube. Hein. C'est absolument faramineux. Et vous savez qu'on considère qu'un adolescent français, en moyenne, passe 1h30 sur YouTube par jour, en moyenne. Ce qui veut dire que certains passent 5 heures, voire 6 heures sur YouTube par jour. Hein, et que certains sont dans une situation qui est une situation d'addiction à l'écran. On voit apparaître dans les hôpitaux aujourd'hui des signalements qui relèvent de l'addiction, au sens traditionnel du terme. On voit apparaître aussi des parents qui sont maltraités quand ils sèvrent leurs enfants en cas de sevrage par rapport à Internet. C'est des phénomènes qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années. Moi-même, j'ai étudié d'une manière tout à fait précise et particulière l'impact d'un petit outil tout à fait particulier et tout à fait symbolique qui est la télécommande. Dans un article... la télécommande, vous en avez 3 ou 4 dans votre salon, vous ne savez pas bien, vous vous mélangez les pinceaux comme moi, vous ne savez pas bien laquelle prendre, comment la prendre, comment elle se combine entre elles, etc. Mais vos enfants et vos petits-enfants, si vous en avez, savent eux très bien manipuler les télécommandes. Et j'ai fait une étude qui est parue il y a 4 ans maintenant sur la télécommande, où je l'appelais un phallus high-tech, hein, et je montrais quel était le comportement des enfants avec la télécommande, et je montrais surtout que le problème n'était pas le fait qu'il y ait des télécommandes, c'est le fait que les concepteurs de programmes savent que les enfants ont une télécommande, et que le problème majeur des concepteurs de programmes, c'est évidemment que les enfants ne zappent pas. Et ce qui est en cours d'organisation et de structuration aujourd'hui, c'est une espèce de course permanente entre les gens qui font les programmes et les enfants pour savoir à qui zappera le plus vite. C'est-à-dire que comme le concepteur de programme sait que l'enfant peut zapper et qu'il ne veut pas qu'il zappe, eh bien, il faut zapper avant lui. Donc, il faut éviter tous les temps morts, il faut accélérer, il faut aller crescendo, il faut mettre toujours de la musique, toujours plus d'effets, toujours plus de provocations, parfois toujours plus de violence, etc., etc. Et on est dans une espèce d'emballement absolu. Alors, il y a des phénomènes apparemment anecdotiques, mais qu'on pourrait regarder de plus près. J'ai travaillé avec ma collègue Elisabeth Baton-Hervé sur un petit point qui n'a pas fait descendre des millions de Français dans la rue, qui est la suppression des génériques à la fin des dessins animés du matin sur TF1 et sur M6. Alors vous me direz, ce n'est pas avec ça qu'on fera descendre des millions de Français dans la rue. Néanmoins, il faut vous souvenir qu'environ 40% des enfants d'école primaire regardent la télévision avant d'aller à l'école le matin. 40%. 40% entre 20 minutes pour ceux qui regardent la télévision simplement pendant qu'on débarrasse le petit déjeuner, et 1h30 ou 2h pour ceux qui regardent la télévision se levant parfois avant leurs parents pour allumer le poste. Hein. Il faut savoir qu'en dehors de France 5, il y a une émission plutôt pas mal faite, ça peut être Debout les Zouzous que vous regardez peut-être, l'essentiel des programmes de télévision pour enfants du matin sont diffusés par TF1 et M6, deux grandes chaînes privées puisque France 2 et France 3 n'ont pas de télévision spécifique pour enfants le matin, c'est d'ailleurs tout à leur honneur. Et TF1 et M6 se sont aperçus ensemble qu'il y avait un vrai problème, c'est que pendant les génériques de fin de dessin animé ou de fin d'émission, les enfants passaient sur l'autre chaîne. C'est-à-dire s'ils étaient sur TF1, ils passaient sur M6, et s'ils étaient sur M6, ils passaient sur TF1, parce que les enfants n'aiment pas les génériques. Bon, c'est des noms qui défilent, en particulier quand ils sont traduits du japonais, en plus ça fait un peu bizarre. Et alors c'était très grave pour TF1 et M6 parce que si l'enfant zappe pendant le générique, qu'est-ce qui se passe? Il est perdu pour ce qui suit le générique. Qu'est-ce qui suit le générique? La publicité qui suit immédiatement le générique. Si l'enfant zappe pendant le générique, il est perdu pour la publicité. Or les enfants en âge scolaire sont prescripteurs de 43% des produits que leurs parents achètent. 43% de la consommation est prescrite par les enfants. Les enfants sont donc la cible publicitaire par excellence, pas seulement pour acheter des barres chocolatées, mais parce qu'ils diront à leurs parents, achète tel rouleau de papier hygiénique, j'ai vu à la télé, etc. 43%. Il faut donc capter l'enfant. Il faut donc qu'il reste devant le poste. Il faut donc qu'il soit dans une relation hypnotique devant le poste. Et pour ça, on supprime le générique, parce que le générique n'est pas suffisamment hypnotique. Et on organise les choses de telle manière que les mêmes chartes graphiques soient celles du dessin animé et de la pub. Et parfois, la pub achète à des prix absolument vertigineux les personnages des dessins animés pour les introduire dans la pub et pour brouiller la limite entre ce qui est pub et ce qui est dessin animé. Et parfois, nous-mêmes, Éducation nationale, et même l'État fait la bêtise, puisque l'État a acheté à prix d'or aux éditions Glénat le personnage de Titeuf pour les programmes de prévention à la santé, ce qui, d'après les enquêtes que nous avons faites avec quelques-uns de mes étudiants, est totalement contre-productif, puisque les enfants qui voient Titeuf leur donner des conseils sur leur consommation pensent que c'est un dessin animé, que ça n'a absolument aucun fondement de vérité et que ça relève de la fiction à peu près comme la guerre des étoiles. Parce que tout est brouillé, parce que la frontière entre le réel et le virtuel est totalement brouillée. Nous sommes là devant des phénomènes totalement nouveaux, qui sont des phénomènes qui prennent une ampleur absolument considérable, qui amènent à ce que Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel. Bernard Stiegler dit il y a trois âges du capitalisme, hein, le capitalisme industriel, qui est à peu près mort, le capitalisme financier, qui vit encore, mais qui a quelques soubresauts, et puis le troisième âge du capitalisme, celui qui est en train de se développer, c'est ce qu'il appelle le capitalisme pulsionnel, c'est celui qui exploite la pulsion en permanence, la pulsion d'achat en particulier, et qui vous dit en permanence, fais ton caprice, exige, demande, revendique, et si tu n'as pas ce que tu veux, roule-toi par terre, fais ton caprice, n'attends pas, exige. Ce capitalisme pulsionnel, il est absolument décisif et on ne peut pas penser l'éducation sans penser ce contexte. Pourquoi ? Eh bien parce que l'éducation, c'est justement l'effort permanent des éducateurs pour que les enfants sursoient à leurs caprices, voire sortent de leurs caprices. Or, nous enseignons aux enfants désespérément à sursoir à leurs caprices dans une société qui leur dit en permanence « fais ton caprice, ça fait marcher le commerce ». Alors ça commence dans le supermarché, vous amenez votre fils ou votre fille, vous le mettez dans le caddie, et puis vous poussez, et puis il arrive là, et puis à la sortie des caisses, il y a les chewing-gums, les bonbons, tout ça miroite de tous les côtés, il se précipite, il attrape un bonbon, un chewing-gum, vous dites non, vous essayez de résister, il y a une négociation plus ou moins verbalisée qui s'enclenche, et puis... derrière, il y a la queue, oui, qu'est-ce qui se passe? Alors vous cédez, vous coupez la poire en deux, vous en achetez la moitié, etc. Parce que la pulsion s'est installée comme étant ce qui commandait finalement le comportement de l'homme. Alors, nous sommes là dans une situation qui, à bien des égards, interpelle l'éducateur. L'éducateur qui est l'éducateur familial, l'éducateur scolaire, mais aussi tous les éducateurs et toute la société tout entière. On y reviendra si vous le souhaitez pendant le débat, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'un certain nombre de critiques contre l'école primaire qui ont été formulées récemment sont injustes. Elles sont injustes parce qu'elles font porter aux enseignants du premier degré la responsabilité de phénomènes qu'il faut faire porter à la société tout entière et à la manière dont cette société traite ses enfants, à la manière dont cette société insuffle à ses enfants... cette idéologie du tout pulsionnel et crée chez eux quelque chose qui relève de cette difficulté structurelle d'attention. Mon collègue Jean Le Gall, qui est très proche du courant Freinet,
qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est malade.
Voilà, et qui aurait voulu être là aujourd'hui, voilà. Mais qui est malade, ça a été une de ses dernières recherches, a fait une enquête auprès des enseignants des Pays de Loire sur quel était leur plus gros problème au quotidien. Et il a conclu, avec beaucoup de précision et d'une manière très étayée, que c'était à la fois, que c'était pas le niveau, que c'était pas la violence au sens explicite du terme, c'est pas l'élève qui sort son couteau, ça arrive, mais malheureusement, mais c'est pas ça le problème numéro un auquel se trouvent confrontés les collègues. Il a dit très justement que le problème numéro un, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler l'inattention, la déconcentration, l'espèce de classe un peu bouillon, vous savez, comment dire, cocotte minute. Hein. Et c'est vrai que quand on discute avec les collègues, c'est ça qui est frappant. Les élèves sont pour la plupart de bonne volonté, ils ne sont pas plus idiots qu'avant, ils ne sont pas moins intelligents. En revanche, ils ont des difficultés à se concentrer, à fixer leur attention. Nous l'avons prouvé dans notre laboratoire avec des tests que nous avons repris des années 30 et puis des années 60. Il y a une capacité d'attention qui diminue. Et puis, il y a également ce sentiment qu'à chaque enfant, qu'on doit obéir à chacune de ses demandes. D'où le développement de ce que j'ai appelé dans un article récemment la pédagogie du garçon de café. C'est-à-dire, quand je vais visiter une classe... Quand j'allais en tant que directeur d'IUFM visiter une classe, eh bien je voyais ces jeunes enseignants réduits à des garçons de café, c'est-à-dire courant d'une table à l'autre en permanence, parce qu'aucun enfant ne supportait d'avoir une consigne collective. Chacun voulait qu'on lui redise séparément ce qu'on avait dit à tous et qu'on lui réponde dans l'instant à la demande qu'il exprimait d'une manière absolument impérative. Donc ces jeunes collègues, avec le maximum de bonne volonté, passaient leur temps à courir un peu partout. Ils étaient totalement vampirisés. À aucun moment, ils ne pouvaient se poser. Et bien évidemment, ils ne favorisaient pas cette construction de l'autonomie dont parle Célestin Freinet quand il évoque la ruche à plusieurs reprises dans ses travaux. C'est une ruche qui travaille, ce n'est pas une ruche folle, ce n'est pas une ruche dans laquelle... on aurait injecté je ne sais quel produit et qui rendrait les gens totalement fous et qui ferait que les abeilles ne sauraient plus quoi faire. C'est bien une ruche où les gens savent ce qu'ils ont à faire et le font d'une manière délibérée, même s'il ne faut pas trop pousser loin hein, la comparaison entre les enfants et les abeilles. L'abeille est génétiquement royaliste. Hein. On n'a jamais vu d'abeille démocrate, par définition. Et nous cherchons à faire des enfants démocrates. Donc... la comparaison s'arrête là. Alors, dans ces conditions, l'éducation se trouve face à de nouveaux défis, très largement inédits, et plus que jamais a besoin de revenir aux fondamentaux de la pédagogie. La pédagogie comme accompagnement du passage. Le pédagogue est celui qui accompagne, c'est celui qui va avec, qui chemine avec. Vous savez qu'à l'origine, c'était quelqu'un qui accompagnait l'enfant à l'école. Le pédagogue accompagne... Il accompagne l'enfant dans des passages. Alors, quelques-uns de ces passages, le passage du privé au public, il permet à l'enfant de découvrir les exigences de l'espace public par rapport à l'espace privé, du pulsionnel au réflexif, de l'individuel au collectif, de l'expression spontanée à l'inscription dans une culture, du chaos des égos individuels qui s'affrontent au lien social qui se structure et se construit. Voilà un certain nombre d'exigences que je vais reprendre une à une, si vous voulez, sous forme de défis, mais rapidement. Accompagner le passage de l'espace privé à l'espace public, ça suppose d'être attentif avec les enfants à ce qui sépare le privé et public et ce qui les articule. Ça suppose la mise en place de rites de passage. Ça suppose un travail... compliqué et sans cesse à remettre en chantier de désintrication du savoir et du croire. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'humain pourra un jour séparer définitivement le savoir et le croire. Mais je pense que l'éducation est ce travail par lequel on tente de désintriquer en permanence le savoir du croire, ce dont on parle et ce qu'on en dit, ce qui relève de l'objectalité, de ce qui relève du point de vue subjectif, et que lire même, c'est ça. Lire, c'est savoir qu'il y a un futur et pas un conditionnel. Et le futur, ce n'est pas le conditionnel. Et le conditionnel, ce n'est pas futur. On peut discuter, mais c'est comme ça. Bon. Mais il y a un point de vue qu'on peut se faire sur ce qui est dit qui fait qu'à côté de l'objectalité du texte, il y a la subjectivité de celui qui lit le texte. Et cette articulation, cette dialectique entre le savoir et le croire, entre l'objectalité et la subjectivité, est au cœur des apprentissages. C'était un travail très fort. Séparer le privé et le public, c'est pas simple dans une société qui justement mélange en permanence le privé et le public. Par exemple, la télévision, c'est le lieu de l'irruption permanente du privé. La télévision parle très peu aujourd'hui des grandes questions publiques. Par exemple, vous n'avez pas de véritable émission de télévision sur la manière dont est construit le budget de la nation et dont sont ventilées les dépenses et les recettes, n'est-ce pas ? En revanche, sur les états d'âme privés de telle ou telle vedette du showbiz, là, vous êtes totalement informés. Le privé envahit totalement les médias au détriment de ce qui relève de l'espace public. Et même la SNCF, avec TGV Family, est en train de réinstaller de l'espace privé dans les transports publics. Je ne suis pas contre le fait de faire des wagons réservés aux enfants. Ce qui me gêne, c'est que tous les lieux où il existait du public sont en quelque sorte vendus par appartement progressivement aux espaces privés, et que le lieu du public est en train de se déliter. D'où l'importance de maintenir cette idée d'école comme lieu du public contre les lieux du privé, non pas contre au sens où il faut s'opposer au privé, il ne s'agit pas d'interdire l'expression du privé, mais il faut marquer la frontière et la marquer par des rites de passage. Dans un rite très célèbre en pédagogie institutionnelle, qui est le Quad Neuf, eh bien, on donne place au privé, puisque par le Quad Neuf, l'enfant peut dire ce qui relève du privé, mais on marque aussi la frontière entre ce qui relève du privé et le moment des apprentissages qui relève du collectif et du public. Accompagner le passage de l'individu pulsionnel au sujet réflexif, c'est compliqué. C'est un travail permanent sur le sursis à l'acte. Je ne refuse pas de t'entendre, mais pas maintenant. Je te demande de sursoir à ton expression pulsionnelle. Tu vas l'écrire, tu vas y penser, tu le diras au conseil plus tard. C'est l'articulation fondatrice du droit d'expression et du devoir d'éducation. L'enfant a droit de s'exprimer dès lors que je fais en sorte, par la présence et les exigences que je porte, que ce droit d'expression s'exprime, enfin se mette en œuvre dans un cadre qui lui permet d'épurer sa pensée, de ne pas être dans le simple pulsionnel. On est là vraiment dans quelque chose de fondateur pour moi et qui est constant dans l'éducation nouvelle, qui était quelque chose de très fort pour freiner, qui est de passer de cette espèce d'immédiateté de la pulsion à une expression qui est tamisé, qui est réfléchi et qui est travaillé. Et cela ne peut se faire que par le sursis. Korczak a proposé la boîte aux lettres dans laquelle les enfants s'écrivaient, freinaient aussi. Il y avait « Je critique, je propose » et toute une série de dispositifs de ce type. La plupart des pédagogues ont insisté sur cette nécessité de prévoir une expression en sursis qui ait justement la possibilité de donner la parole sans libérer le chaos, ou de, comme le dit Fernand Houry, passer du chaos à la parole. Cela doit se faire aussi par des situations permettant, selon l'expression d'un philosophe que j'aime bien, Gabriel Madinier, l'inversion de la dispersion. Je crois qu'aujourd'hui nous avons des enfants profondément dispersés dans leur tête. Ils sont dispersés entre une multitude de choses. L'inversion de la dispersion, c'est la capacité à zoomer, à se projeter sur un objet, à avoir une intentionnalité qui se fixe sur quelque chose de précis. Et puis, il y a aussi, et déjà Freinet l'avait suggéré, le développement systématique des démarches que nous appelons de métacognition. Qu'est-ce que tu as compris à travers ce que tu as fait ? Ne jamais confondre ce qu'on fait et ce qu'on comprend, ce qu'on fait et ce qu'on apprend. Qu'est-ce que tu as fait à l'école ? Je suis allé au musée. Qu'est-ce que tu as fait à l'école ? J'ai fait du jeu de rôle. Qu'est-ce que tu as fait à l'école ? J'ai fait des dominos. Qu'est-ce que tu as fait à l'école ? J'ai fait des exercices. Celui qui répond comme ça, il n'a rien fait à l'école. Celui qui répond, qu'est-ce que tu as fait à l'école ? J'ai compris ce que c'était que l'impressionnisme. J'ai compris quand est-ce qu'il fallait que j'utilise le conditionnel. J'ai compris en quoi un geste n'était pas une gesticulation. Alors celui-là, il est passé d'un acte et d'une centration sur la tâche à une centration sur l'apprendre et sur le comprendre. Et nous sommes là devant des choses absolument centrales et essentielles. Je ne suis pas d'accord avec toutes les analyses que développent nos collègues de Paris 8, mais ils disent là des choses que je trouve tout à fait justes quand ils soulignent à quel point La centration sur la tâche et sur l'activité au détriment du comprendre pénalise les élèves qui sont déjà en difficulté. Accompagner, c'est le défi numéro 3, le passage de l'individuel au collectif. Eh bien, c'est quelque chose que Freinet nous a appris très fortement à travers la correspondance, à travers le journal scolaire, à travers les enquêtes, travailler sur des médiations, mettre en place aussi des institutions qui médiatisent les relations et évitent qu'on soit dans la coagulation fusionnelle, organiser des rôles qui permettent de parler en tant que, pour sortir de la toute-puissance, je parle en tant que je suis responsable du rangement des caractères dans les cases d'imprimerie, je parle en tant que je suis responsable de la mise en page, je parle en tant que, découvrir que l'autorité c'est la compétence et qu'elle est liée à l'exercice d'une fonction dans un collectif. Vous voyez bien toute l'importance que ça peut avoir pour l'enfant. Et puis par la rotation des tâches qui permet d'explorer les configurations possibles du collectif. Ça, c'est un point sur lequel j'ai un peu discuté un certain nombre de textes de Freinet. C'est un point sur lequel je pense qu'on peut travailler un peu plus, continuer à travailler. Je pense qu'à certains moments, mais je ne vais pas me lancer ici dans des exégèses un peu savantes, Freinet a hésité sur cette question, en particulier quand il a introduit le système des brevets emprunté au scoutisme, avec l'idée des brevets facultatifs et des brevets obligatoires, etc., etc., et qu'il a un peu flotté. En tout cas, il a eu du mal. Je pense que quelqu'un comme Makarenko était plus clair quand il disait clairement, dans tout groupe éducatif, toutes les tâches doivent toujours tourner tout le temps. C'est-à-dire, jamais personne ne doit s'installer dans une tâche quelle qu'elle soit, que ce soit une tâche de direction, d'exécution ou quoi que ce soit, tout le monde doit faire à son tour toutes les tâches. Je pense qu'il avait raison, qu'il était dans une rigueur et dans une fermeté qui me paraît salutaire. Quatrième défi, accompagner le passage de l'expression spontanée à l'expression dans une culture. Et bien sûr, ça se caractérise par la mise en situation des savoirs scolaires. Un savoir, ça n'est pas simplement un exercice sur un parcours du combattant. Hein. Moi, j'ai connu des élèves qui pensaient que c'était les profs de maths qui avaient inventé les maths, simplement pour savoir si on pouvait passer en classe supérieure. Eh bien non, les maths, c'est des outils d'émancipation des hommes, et ça sert à grandir et à comprendre le monde. L'accès à l'intelligence des enjeux historiques et épistémologiques des savoirs. Je crois à la nécessité de raconter les savoirs, comme le dit Jérôme Brunner, de les inscrire dans une histoire, d'en restituer la dramaturgie. La dramaturgie des savoirs. Pourquoi Galilée, c'est important? Et contre qui il s'est battu? À quel moment son savoir est apparu? Et qu'est-ce qu'il a voulu dire ou ne pas dire pour ça? Et puis, je crois au travail sur les œuvres, qui relie, et qui relie ce que chacun a de plus intime avec ce qui est le plus universel. Pourquoi il faut continuer à raconter le petit poussé? Eh bien, parce que dans le petit poussé, chacun va découvrir la peur de l'abandon et la figure de l'ogre, et que chacun va découvrir qu'il n'est pas seul à avoir à la fois peur d'être abandonné par ses parents et peur d'être mangé par l'ogre. Et dans le petit poussé, il y a ce que chacun a de plus intime, mais que l'on va offrir à l'enfant sans le violer dans son intimité. On va lui offrir parce que l'œuvre va lui permettre de faire le lien entre son intimité et l'universalité de la culture. Le cinquième défi, c'est peut-être le plus important, et celui dans lequel Freinet et tous ses successeurs nous ont le plus accompagné, c'est l'accompagnement du passage du chaos à la parole. En faisant exister une parole qui ne s'abolit pas dans l'échange de signaux ou dans l'échange d'insultes, mais qui ouvre à une interlocution dans laquelle nul ne peut avoir le dernier mot. C'est une des caractéristiques de la parole démocratique et de la parole éducative, c'est que nul n'a le droit d'avoir le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est celui qui clôt la parole, celui qui arrête la parole. Alors, la parole, c'est opérer des distinctions obstinément qui permettent de penser le réel. La distinction, c'est l'opération mentale fondamentale. C'est pas pareil. Là, c'est deux figures. Il y a un trapèze et un rectangle. C'est la première distinction. Ça fait partie des distinctions. Et puis plus loin, il y a des distinctions beaucoup plus conceptuelles entre la peur et la témérité, et on distingue, et on distingue, et on passe son temps à distinguer. Et jusqu'à une thèse, et jusqu'aux plus hauts travaux de recherche, on ne fait que distinguer. Des petites distinctions, et de distinction à distinction, on arrive à penser et à parler juste. Et il faut restaurer pour cela quelque chose de fondateur, quelque chose que notre société a largement perdu, restaurer l'inquiétude au cœur de la parole. La parole habitée, la parole inquiète, c'est la parole en quête de précision, de justesse et de vérité, c'est la parole qui interpelle l'autre en même temps qu'elle permet l'expression de soi. Alors, voilà des défis importants, des défis qui nous amènent devant une crise de l'éducation ou chance pour la pédagogie. J'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être, d'une certaine manière, une chance pour la pédagogie dans les difficultés que traverse notre monde aujourd'hui. J'ai noté ici une phrase de Michel Souétard qui conclut sa traduction des recherches sur la marche de la nature dans l'évolution du genre humain de Pestalozzi et qui conclut ainsi « La sagesse de Pestalozzi est celle d'un homme qui a pris son parti de l'effondrement moral, spirituel et politique de ce monde » mais qui voit dans cet effondrement, dès lors qu'il en articule le constat avec une foi sauvegardée de l'homme en son sens, la chance de l'éducation, la chance de la formation à l'humanité, la chance de la formation de l'homme. Et il dit, c'est en définitive un monde qui bascule dans l'éducation, le nôtre. Peut-être qu'après tout, la mort des théocraties, la mort des certitudes, la disparition de ces espèces de grands carcans moraux qui nous ont enserrés pendant des années, donne à l'éducation une place encore plus forte et donne la possibilité d'espérer eh bien, que petit à petit, nous soyons capables de construire un univers à hauteur d'homme. Alors pour cela, il nous faut une pédagogie de la laïcité qui permet d'accompagner le passage du privé au public, une pédagogie du sujet qui permet d'accompagner le passage du pulsionnel au réflexif, une pédagogie institutionnelle qui permet d'accompagner le passage de l'individuel au collectif, une pédagogie culturelle qui permet d'accompagner le passage de l'expression spontanée à l'inscription dans une culture, et une pédagogie de la parole qui permet de sortir du chaos pour entrer dans une relation pacifique avec l'autre. Alors voilà pour la première série de remarques, elle est ambitieuse, mais elle est là pour brosser un peu le tableau. Deuxième série de remarques à partir de là, qu'est-ce que la pédagogie ? Puisqu'on parle de pédagogie, et je voudrais ici, me donner quelques instants juste pour préciser quelques éléments de terminologie. D'abord, la pédagogie, ça n'est pas une technique de communication, c'est-à-dire que rien n'est pire et rien ne m'agace plus pour ma part que ces ministres qui disent que maintenant il faut faire preuve de pédagogie pour expliquer la nouvelle loi sur la manière de contrôler le chômage. Non, ça c'est de la communication, ça n'est pas de la pédagogie. La pédagogie, ça n'est pas l'ensemble des discours sur l'éducation, qu'ils soient philosophiques, sociologiques, psychologiques ou journalistiques. Bon, ça, c'est des discours qui existent, mais ça n'est pas de la pédagogie. La pédagogie, c'est la construction de modèles éducatifs qui tentent d'articuler toujours trois pôles. Un pôle axiologique, c'est-à-dire des valeurs. Un pôle scientifique, c'est-à-dire des connaissances. Et un pôle praxéologique, c'est-à-dire des outils. Alors, au fond, et je vais vous présenter ça sous forme d'un triangle, c'est cela qui caractérise la pédagogie, c'est cela qui caractérise la pédagogie de Freinet, par exemple. Il y a des valeurs fortes chez Freinet. Il y a une valeur fondamentale, c'est l'homme, on pourrait dire c'est l'humaine condition, au sens de Montaigne. Il y a un étayage chez Freinet. Alors, c'est un peu compliqué, parce que cet étayage est assez hétéroclite. Freinet va chercher une partie de son étayage chez Ferrière, une partie de son étayage chez des psychologues comme Léon Thieff, une partie de son étayage dans une sorte de psychologie vitaliste qui existait à l'époque. Mais il y a des étayages, et ces étayages existent, il les cite d'ailleurs à plusieurs reprises dans ses écrits. Et puis il y a des outils, il y a des techniques, les techniques de l'école moderne. Hein. Je crois que d'ailleurs Freinet préférait le mot technique au mot outil ou au mot dispositif. Il aimait bien parler des techniques. Et je suis assez d'accord sur la beauté de ce mot technique. Dès lors que les outils sont inscrits dans cette triangulation-là et que tout cela fait sens, c'est-à-dire que tout cela a une cohérence. Qu'on peut avoir des outils sans valeur et sans étayage, des étayages, alors là, l'université en est plein d'étayages scientifiques, mais sans valeur ni outils, alors ça, vous pouvez en avoir tant que vous voulez, où vous pouvez avoir des valeurs, mais sans être capable d'avoir ni les étayages ni les outils pour les mettre en pratique. Donc ce qui fait tenir une pédagogie à un moment donné, c'est que sur un objectif particulier, eh bien, on a des valeurs, on sait où on va, on a une pensée, et on a des outils qui permettent de mettre en œuvre sa propre pensée. Alors, je pourrais vous donner des exemples. À l'époque de Freinet, on a par exemple, et tout à fait à l'encontre de ce que dit Freinet, le développement d'autres pédagogies comme l'enseignement programmé. Eh bien, dans l'enseignement programmé, vous avez un pôle des valeurs, qui est la conception de l'homme-machine. Vous avez un pôle scientifique, qui est ce qu'on appelle le behaviorisme. Et vous avez un pôle praxéologique, qui est l'enseignement assisté par ordinateur, c'est-à-dire on conçoit l'enfant comme un rat dans un labyrinthe, avec des renforcements positifs quand on lui fait manger des boulettes de viande, et des renforcements négatifs quand on lui envoie quelques petites décharges électriques. Hein ? Un peu à Freinet, on voit apparaître par exemple la non-directivité, qui a un pôle axiologique, qui est le personnalisme, un pôle praxéologique, qui est le travail de groupe, et un pôle scientifique, qui est la sociologie lewinienne des groupes. Je pourrais multiplier cela, mais l'important n'est pas là. L'important, c'est d'entendre la pédagogie comme étant l'ensemble des modèles d'intelligibilité de l'entreprise éducative, et de comprendre que ces modèles prennent une nouvelle dimension dès lors qu'à partir du XVIIIe siècle, les pédagogues vont s'intéresser à quelque chose de tout à fait étonnant, c'est à l'éducabilité des inéducables. Les deux personnages vont là jouer un rôle absolument central. C'est Itard avec Victor de l'Aveyron, celui dont tout le monde pense qu'il est débile, l'enfant sauvage, et Pestalozzi avec les orphelins de Stans, dont personne ne veut, et dont on pense que comme leurs parents sont morts et que ce sont des galeux, des pelés, des tondus, il n'y a qu'à les laisser crever dans leur fange. Eh bien, l'un et l'autre se lèvent et disent « Il y a de l'éducation possible avec eux, nous ne baisserons pas les bras, nous allons tenter de les éduquer. » L'un et l'autre mettent en avant ce fameux principe d'éducabilité, selon lequel tout individu est éducable, aucun enfant ne peut être exclu a priori du cercle de l'humain, tout homme peut apprendre et progresser. Ce principe d'éducabilité est fondateur, il apparaît au XVIIIe siècle, Rousseau l'appelait déjà le principe de perfectibilité, je l'appelle moi le principe d'éducabilité, et on va voir qu'il va se développer tout au long du XIXe siècle, et que les pédagogues vont progressivement mettre en regard un principe qui est nécessaire, sinon le principe d'éducabilité peut engendrer de dangereuses dérives, qui est le principe de liberté. Aujourd'hui, quand j'ai à définir la pédagogie, je le fais volontiers en disant que c'est l'ensemble des travaux qui tentent de tenir ensemble deux affirmations essentielles et contradictoires. Première affirmation, tout sujet peut apprendre et grandir. Deuxième affirmation, nul ne peut contraindre un sujet à apprendre et à grandir. Et ça, c'est fondamental. Et si je lis, par exemple, des textes comme la pédagogie du travail, ou l'édit de Mathieu, ou des choses comme ça, qu'est-ce que j'y trouve exprimé dans des termes un peu différents ? C'est bien cela. Et les métaphores naturalistes que prend Freinet, elles ont toujours en arrière-fond cette conception que tous les sujets peuvent apprendre et grandir, mais qu'en même temps, on ne peut pas tirer sur les plantes pour les faire grandir, que nul ne peut contraindre quiconque à apprendre et à grandir, parce que c'est la liberté de l'autre qui est en jeu. La chose qu'on peut faire, et c'est ce que Freinet ne cesse de revendiquer, c'est d'inventer obstinément des dispositifs, des techniques, des médiations qui permettent à tout sujet de mettre en œuvre et de développer sa liberté d'apprendre pour éviter tout à la fois le fatalisme de ceux qui disent « personne ne peut apprendre et grandir » et la manipulation de ceux qui disent « vous allez voir comment je vous fais apprendre et grandir, moi, hein ?» Bon, vous branchez des électrodes et puis ça va marcher. Hein ? Il y a arrivé les neurosciences à toute blinde là-dedans. Alors, vous voyez que, et moi j'y tiens beaucoup, si l'on définit ainsi la pédagogie, si l'on donne à la pédagogie ce double objectif, cette double finalité, nul ne peut contraindre quiconque à apprendre et à grandir, mais en même temps, tout sujet peut apprendre et grandir, ça donne au pédagogue un rôle très particulier. Il n'est pas un fabricant, au sens où Francis Imbert dit qu'il n'est pas dans la poiesis. Et en même temps, il est présent, il construit, il propose des dispositifs, il met en place des environnements, il suggère des techniques. Et c'est ça, je crois, l'inventivité pédagogique, c'est ça le cœur même de la pédagogie. Alors, pourquoi la pédagogie défrénée et même avant, dès Ferdinand Buisson, dès Henri Marion, première chaire de sciences de l'éducation en France à la Sorbonne, 1888, fondée par Jules Ferry lui-même. Henri Marion qui se fait tirer à vue par tous les intellectuels de l'époque, et en particulier par le rédacteur en chef de la revue qui était à la fois Esprit, Le Nouvel Obs et je ne sais trop quoi réunis, qui s'appelait Les Temps Modernes, qui existe toujours. Non, pas Les Temps Modernes. Les Temps Modernes, c'est Sartre, qui s'appelle La Revue des Deux Mondes. La Revue des Deux Mondes. Temps moderne, c'est Sartre, excusez-moi. La Revue des Deux Mondes, qui existe toujours, je crois, hein, qui disait, qu'est-ce que c'est ces gens, Marion, qui se mêlent de pédagogie, mais le peuple n'a pas besoin de pédagogie, de toute façon, il y a ceux qui veulent apprendre, ils apprendront, et puis ceux qui ne veulent pas apprendre, eh ben, c'est qu'ils ne peuvent pas apprendre, après, c'est tout. Hein. Et la critique de la pédagogie est devenue quasiment un sport national en France. D'ailleurs, à cet égard, je vous fais remarquer, ce sont des petites anecdotes très significatives, qu'il n'y a même pas à Paris de rue, de place ou d'impasse Jean-Jacques Rousseau, mais qu'il y a un grand boulevard Voltaire. Hein? Et qu'à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de villes de France où il y a une rue ou une place Jean-Jacques Rousseau, mais qu'il y a quasiment partout des boulevards Voltaire ou des places Voltaire ou des statues de Voltaire. Parce que Voltaire se moquait de la pédagogie comme d'une guigne. Hein? Alors que Rousseau, en dépit du fait qu'il a abandonné ses propres enfants, ce qui est bien triste, mais qui, à l'époque, n'avait pas du tout la même signification que nous, est quand même le fondateur et le penseur de la pédagogie. Alors, pourquoi la pédagogie est-elle si critiquée en France? Eh bien, parce qu'elle joue le jeu de la complexité et répète inlassablement des choses que Freinet n'a cessé de dire, que l'apprentissage ne se décrète pas. Il ne suffit pas de décréter que les élèves vont apprendre pour qu'ils apprennent, quoi. Voilà. Et ça, c'est un peu plus compliqué que de dire « il n'y a qu'à ». Il n'y a qu'à décréter pour qu'ils apprennent, quoi. Non. Parce que la pédagogie considère que l'apprentissage ne relève ni des dons, ni de l'aléatoire, mais bien de l'effort des éducateurs pour rendre possible. Et parce que, je vous le disais, la tradition française a toujours préféré l'alacrité de Voltaire à la complexité de Rousseau. Voltaire était un homme du monde, Rousseau était un gueux, et la France préfère toujours les hommes du monde aux gueux. Et puis parce que, bien sûr, dans la pédagogie, on ne distingue pas suffisamment les différentes manifestations qui se revendiquent de la pédagogie. Et là, je vais peut-être être en désaccord avec certains d'entre vous, mais je pense qu'il faut distinguer les choses. Je pense en particulier que dans la pédagogie, il ne faut pas mettre sur le même plan les expérimentations libertaires, type Summerhill, qui ont eu leur place, mais qui, pour moi, ne sont pas à franchement parler progressistes. Je vais même dire, je pense que Baden-Powell, en dépit du fait qu'il est militariste et d'extrême droite, est plus progressiste que Neil de Summerhill. En pédagogie. D'ailleurs, je peux vous le montrer, que le scoutisme est plus progressiste que Summerhill. Bon. Mais, pour vous le montrer sur des points précis et sur des exemples extrêmement précis. Et qu'on a cédé à des espèces d'engouement. Enfin, pas tout le monde, hein. Fernand Houry était particulièrement critique, hein, là-dessus. Il parlait des petits Émile Ocuroses, des expériences non directives et libertaires. Et il s'en moquait avec beaucoup de verve, mais trop souvent, quand on parle de pédagogie en France, c'est Summerhill, quoi. Hein? C'est, voilà, il y a une espèce d'identité là, or la pédagogie, ça n'est pas cela. Il faut distinguer ça. Il faut distinguer aussi ce que j'appelle les dispositifs behavioristes, c'est-à-dire des espèces de dispositifs qui, finalement, sont des dispositifs de dressage amélioré. Hein? Il faut distinguer ce que j'appelle la vulgate psychotechnologique, qui tente de juxtaposer un accompagnement bienveillant et des techniques de contrôle et d'évaluation des comportements. Globalement, ce sont nos instructions officielles. Et puis, le vrai travail pédagogique, qui est un travail exigeant, qui s'efforce d'associer dans le même temps transmission et émancipation, et de faire en sorte que dans l'acte même de transmettre, on émancipe. Et là, je crois que Freinet nous est utile. Alors, il faut aller creuser un peu. Il ne faut pas s'en tenir aux nébuleuses. Alors, il y a une nébuleuse. Je me suis amusé à vous préparer une espèce de nébuleuse. Vous savez, c'est tous les mots et tous les trucs qu'on trouve dans la pédagogie. Et il y en a. Vous les connaissez, il y en a. Attendez, je suis allé trop vite. Ouh là 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 là. Attendez. Voilà. Alors, une nébuleuse. Une espèce de nébuleuse de mots que vous trouvez dans nos instructions, dans nos discours, respect de l'enfant, méthodes actives, apprendre à apprendre, projet, intérêt d'élève, compétences, motivation, évaluation, fond sujet. Alors, cette nébuleuse-là, elle est un peu. Elle est devenue presque illisible parce que tout le monde l'utilise, quoi. C'est devenu une espèce de discours, une espèce de truc sympathique où tout le monde retrouve. On s'y retrouve, tout, personne n'est contre, quoi. Bon, c'est plutôt bien tout ça, bon. Mais c'est quand même une nébuleuse. Et il faut se méfier des mots-valises, générateurs d'ambiguïté. Et là, Freinet nous aide. Par exemple, il faut se méfier du mot « méthodes actives ». Il faut pratiquer des méthodes actives, mais intellectuellement actives. Et là, je dirais qu'un enfant n'apprend que lorsqu'il est actif, d'accord, mais les méthodes actives, ça n'est pas le bricolage non directif. Hein, il ne suffit pas de donner des ciseaux, des couteaux, et puis de laisser faire. La véritable méthode active, c'est celle qui consiste à rendre possible une activité mentale de l'élève. C'est-à-dire travailler sur des matériaux avec des consignes qui permettent d'acquérir quelque chose. Et là, on voit bien à quel point les techniques sont essentielles. De la même manière, il faut se méfier de la notion d'intérêt de l'enfant. Vous savez, l'intérêt de l'élève. Bien sûr, le problème de l'intérêt de l'élève, d'ailleurs, ça a toujours été un gros problème pédagogique, l'intérêt de l'élève, parce que ce qui est dans son intérêt, en général, ça ne l'intéresse pas. Et ce qui l'intéresse n'est pas dans son intérêt. Alors, l'élève, en général, ce qui l'intéresse, c'est plutôt, les dessins animés, mais ce n'est pas dans son intérêt. Dans son intérêt, c'est plutôt la grammaire anglaise. Mais ce qui est dans son intérêt, la grammaire anglaise, ça l'intéresse rarement. Non, le problème, c'est de savoir, quand on parle de l'intérêt, si on parle de ce qui l'intéresse ou de ce qui est dans son intérêt. En général, on mélange un peu les deux. Et puis surtout, quand on parle de l'intérêt de l'élève, on fait comme s'il fallait s'en tenir à ce qui l'intéresse spontanément. Or là, je crois qu'il y a de vraies leçons de la pédagogie, et de la pédagogie moderne, c'est justement de dire qu'il faut mobiliser l'élève sur des intérêts nouveaux. C'est la raison pour laquelle, moi, je m'interdis assez d'utiliser la notion de motivation. Je préfère utiliser la notion de mobilisation. Mobiliser des élèves. Alors là, c'est bien évidemment la fameuse métaphore de Freinet, comment faire boire un âne qui n'a pas soif, hein, que je commande souvent avec mes étudiants quand je reprends ce fameux texte d'Edith Mathieu sur comment faire boire un âne qui n'a pas soif. Je leur dis, oui, Freinet dit comment faire boire un âne qui n'a pas soif, mais il aurait pu expliquer qu'un âne qui n'a pas soif, il y a une bonne manière qu'il ait soif. C'est de ne pas lui donner à boire. D'ailleurs, pour peu qu'il fasse chaud et que vous le priviez de boire pendant un certain temps, il finira toujours par avoir soif. Mais un élève, s'il fait chaud et que vous le privez de mathématiques, il ne va pas venir vous réclamer le théorème de Pythagore. Hein? Donc, quand il s'agit de faire boire des ânes qui n'ont pas soif, on peut se contenter d'attendre et ils finissent par avoir soif. Mais quand il s'agit de faire désirer aux élèves les mathématiques, on ne peut pas se contenter d'attendre. Et c'est là où Freinet va beaucoup plus loin que les théoriciens de la pédagogie nouvelle traditionnelle, c'est qu'il parle de mobiliser l'intérêt sur des enjeux nouveaux que l'adulte assume et non pas simplement de partir de ces intérêts immédiats que les élèves peuvent avoir. Troisième élément, troisième chose sur laquelle il faut être attentif, c'est au fait que mobiliser l'élève sur des tâches, ne signifie pas qu'il suffit de faire. Il faut faire mais comprendre aussi. C'est le dernier livre de Piaget, Réussir et comprendre. Ça, c'est un des gros problèmes des méthodes actives, une des grandes problématiques dans lesquelles moi-même je suis tombé, plutôt une des grandes dérives dans lesquelles moi-même je suis tombé. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé au collège, puis au lycée, puis à l'école primaire, moi j'étais un fanatique des méthodes actives, entre guillemets, et il y avait des fêtes d'école, etc. Et puis le jour de la fête d'école, bah, il fallait présenter des choses qui tiennent le coup, parce que moi j'étais seul ou un peu isolé, parfois en conflit avec mes collègues, et il fallait que j'aie les parents avec moi pour pouvoir continuer. Alors bah, j'exposais quoi? Bah, les plus beaux dessins, je faisais jouer des pièces de théâtre, mais je ne donnais pas le premier rôle au bègue. Je le donnais au bon élève. Et d'une certaine manière, je pensais que la qualité du résultat validait la qualité de ma pédagogie. Alors que ça ne validait rien du tout. Ça validait simplement la capacité que j'avais eue à choisir les bons élèves qui savaient déjà faire les choses sans que j'aie à leur apprendre. Bon. Vous avez des fêtes de l'école, pas ici, en Mayenne, mais il y en a, j'en connais. Ou la veille de la fête de l'école, la maîtresse vient fignoler un petit peu les dessins pour que les parents soient encore plus contents le lendemain et trouvent que vraiment, leurs enfants sont des génies. Hein? Donc il y a à être attentif à cela, et c'est une distinction absolument fondamentale de la pédagogie, une distinction qui est présente aussi en permanence chez Freinet, la distinction entre la tâche et l'objectif. En pédagogie, la tâche n'est jamais l'objectif. Une tâche, c'est écrire. L'objectif, c'est apprendre à écrire. La tâche, ce n'est pas l'objectif. D'ailleurs, ce qui dure, c'est l'objectif, ce n'est pas la tâche. Non, vous avez tous appris à écrire sur des cahiers. Alors, il y en a certes quelques-uns. Et ici, grâce à la municipalité, j'ai bien compris, il y a des endroits où ces cahiers ont été archivés. Mais chacun d'entre vous n'a pas gardé tous les cahiers sur lesquels il a appris à écrire. Et chacun d'entre vous ne va pas tous les dimanches dans son grenier s'agenouiller devant une malle et relire avec émotion tous les cahiers où il a appris à écrire. Je suis même persuadé, je m'avance un peu, qu'il y en a parmi vous qui ont jeté quelques-uns des cahiers où ils ont appris à écrire. Mais là où je ne m'avance pas, c'est que je suis convaincu que certains qui ont jeté les cahiers où ils ont appris à écrire continuent à savoir écrire. Ce qui veut dire que ce qu'ils ont appris, qui n'était pas visible, c'est-à-dire qui se passait dans leur tête, était plus important que ce qu'on voyait et qui se passait sur le papier. Parce qu'en pédagogie, c'est comme dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, évidemment. Parce que l'important, c'est ce qui se passe dans la tête, c'est le comprendre, c'est pas le faire. Le faire n'est jamais que le témoignage du comprendre. Et c'est le comprendre qui nous importe d'abord. Alors, la pédagogie dit cela. De la même manière, la pédagogie dit qu'il faut différencier, mais sans enfermer chacun dans une stratégie d'apprentissage. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire il y a des auditifs, il y a des visuels. Aux auditifs, il faut faire que des cours oraux et aux visuels, il faut faire que des schémas. Il faut s'adapter aux élèves, certes, mais il faut surtout, et c'est absolument essentiel, ouvrir des perspectives, proposer des palettes de possibilités nouvelles et faire en sorte que les élèves découvrent progressivement comment réussir le mieux. De la même manière, la pédagogie nous parle de compétences, faire acquérir des compétences, mais elle nous dit également qu'il ne faut pas réduire l'apprentissage des compétences à leur juxtaposition. On ne peut pas réduire un savoir à la somme des techniques ou des compétences nécessaires pour le mettre en œuvre. Hein? J'ai travaillé moi-même, il n'y a pas très longtemps, et fait un petit écrit là-dessus, sur l'écriture. Qu'est-ce qu'apprendre à écrire? Alors, il y a des compétences techniques. Par exemple, l'élève qui apprend à tracer la lettre M, il faut qu'il apprenne qu'un M, ce n'est pas trois bâtons et deux petits ponts. S'il fait trois bâtons et deux petits ponts, ça fait apparemment un M. Mais ce n'est pas un M. Il est encore dans le dessin, il n'est pas dans l'écrit. Alors on va lui apprendre comment on trace un M, et puis on va lui expliquer comment on le trace. On part d'un endroit, on aboutit à un autre, puis on va les lettres, les mots qui s'accordent, les verbes, les pluriels, tout ce que vous voulez. Très bien. Bon. Donc il y a des techniques pour apprendre à écrire. Sauf que les techniques pour apprendre à écrire, et là c'est un apport fondamental de la pédagogie de Freinet et de toute l'éducation nouvelle, ne peuvent pas suffire si elles ne sont pas portées par la découverte de l'intention d'écrire. Il ne faut pas opposer les techniques et l'intention, les techniques et le projet. Les techniques et le projet sont en interaction ensemble, mais les techniques seules ne permettent pas, hein, comme dit Brassens, sans le génie, la technique n'est qu'une sale manie. Il le dit à propos de notre métier, qui est le plus vieux métier du monde, mais quoique enseigner peut être plus vieux que celui-là, parce que même celui-là, il a peut-être fallu l'enseigner. Nous sommes là devant cette idée que je peux accumuler des techniques, ça ne me donne pas le sens de ce que je fais. Et le sens, René va nous dire, c'est par la correspondance, c'est par un certain nombre de choses comme ça que je vais le découvrir. Alors, moi, j'ai fait des travaux récemment où j'aboutis à des résultats théoriques qui valident totalement les intuitions pratiques de Freinet. Par exemple, j'ai repris ce que dit Goudy sur comment les hommes ont appris à écrire. Ils n'ont pas d'abord écrit pour écrire des lettres ou pour écrire des romans, ni même des traités de philosophie. On a d'abord écrit pour faire des listes. Et on a écrit pour se souvenir de choses que sinon on aurait oubliées. Bon. Tous les premiers écrits, ce sont des listes. Des listes de courses, des listes de matchs. C'est pour pas oublier qu'on écrit. Hein? Autrement dit, on écrit pour libérer sa mémoire. Parce que quand vous avez écrit votre liste de courses, vous pouvez penser comment aller au supermarché. Sinon, si vous avez votre liste de courses et que vous la répétez en permanence dans votre tête pour ne rien oublier, vous n'avez plus de liberté dans votre impant cognitif pour trouver le chemin pour aller au supermarché. Voilà. Donc on a d'abord écrit pour libérer sa mémoire. On a ensuite écrit pour laisser des traces. On a ensuite écrit pour différer sa pensée. Et puis on a ensuite écrit pour quelque chose d'absolument merveilleux qui est le cœur de l'écriture, qui est le cœur de la jouissance de l'écrire, c'est la capacité à transformer les contraintes de la langue en ressources pour la pensée. Ça, c'est absolument merveilleux. Les contraintes de la langue deviennent jouissives parce qu'on en fait des ressources pour la pensée. Et ça, c'est fantastique. Et quand l'enfant a compris ça, que les contraintes de la langue sont des ressources pour la pensée, il sait écrire. Parce qu'il est rentré dans l'intention d'écrire. Il n'est pas resté sur la pure technique de l'écriture. Et on voit bien là que la pédagogie, c'est cette capacité à allier la maîtrise des techniques et l'accès à l'intention, c'est-à-dire la construction des situations dans lesquelles l'intention va pouvoir se manifester. J'ai freiné, par exemple, la correspondance et le journal pour l'écriture, évidemment. Que nous dit la pédagogie, bien sûr, mettre en projet l'élève, mais sans évacuer pour autant les entraînements systématiques. Et là aussi, Freinet est tout à fait essentiel. Si on relit un certain texte de Freinet, il n'est pas contre les exercices, Freinet. Il faut des exercices d'entraînement. En orthographe, en grammaire, etc. Il faut des exercices d'entraînement. Et il n'y a que les gens qui ont caricaturé les méthodes de Freinet pour prétendre qu'il ne faut pas des exercices d'entraînement. Hein? Il ne faut pas croire que parce qu'on a un projet de faire un journal, on ne va plus faire de grammaire et d'orthographe. Hein? L'intention d'apprendre ne peut se concrétiser qu'accompagnée d'entraînement systématique. Et la pédagogie de la découverte n'interdit pas, bien au contraire, de mettre en place des moments rigoureux de formalisation, de mentalisation et de restitution. Hein? Et ça, c'est très important. Et là, on a manipulé la caricature d'une manière absolument insupportable, hein, en faisant croire que les pédagogies dites actives excluaient les exercices d'entraînement, alors que ça n'est absolument pas le cas. Elles équilibrent les moments de mise en projet avec les moments d'entraînement, selon une logique que j'ai un peu étudiée dans des travaux assez anciens et sur lesquels je ne vais pas revenir parce que cela serait trop long. Septième élément que nous dit la pédagogie, il faut apprendre à apprendre, mais pas en apprenant rien. Ah, là aussi, on nous a caricaturés. On dit, oh, les pédagogues, ils sont disent apprendre à apprendre, mais on apprend à apprendre en apprenant quelque chose quand même. Hein? Et le développement du sujet et de ses capacités d'apprentissage est une finalité essentielle, mais tout cela, ça ne peut pas fonctionner à vide. Ça fonctionne sur des objets, sur des contenus qui donnent forme à l'esprit. Et on ne va pas réduire la tête de l'enfant à un segment hypothético-déductif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, mais je ne vais pas non plus rentrer dans ce détail, je conteste assez vigoureusement la récupération des méthodes actives par un certain Piaget, qui est le Piaget, auteur des articles de l'Encyclopédie française, etc., vis-à-vis duquel, d'ailleurs, Freinet a pris un certain nombre de distances. Huitièmement, la pédagogie, rassurez-vous, il n'y en a que 10. Je suis modélisé d'une manière extraordinaire par la base 10. Huitièmement, mettre en place une évaluation formative, et à bien des égards, Freinet est un de ceux qui a, avant la lettre, mis en place l'évaluation formative, qu'on va retrouver chez Houry avec les ceintures de judo, qu'on retrouve chez Freinet avec les brevets, par exemple, donc, que j'évoquais tout à l'heure, mais sans abandonner la moindre exigence. Certes, il ne faut pas confondre évaluation et notation. Une véritable évaluation, et ça Freinet ne cesse de le dire, n'est pas d'abord destinée à situer l'enfant par rapport aux autres, mais à le faire progresser en se donnant des défis à lui-même. Et cette évaluation pédagogique est l'expression d'une exigence solidaire qui permet à l'élève de faire alliance avec le maître. Et puis, il faut bien sûr respecter la personne. C'est un élément fondateur de la pédagogie. Mais en anticipant sa liberté, afin qu'elle puisse s'imputer progressivement ses propres actes. Il ne faut pas confondre chercher à comprendre un élève avec l'excuser systématiquement. Il faut en revanche avoir toujours pressant à l'esprit, et ça c'est très important, Freinet a été un de ceux qui nous l'a rappelé, que c'est la faute qui exclut et la sanction qui intègre. C'est un des principes de la Constitution française. C'est la faute qui exclut, c'est la sanction qui intègre. Ce n'est pas l'inverse. Quelqu'un qui commet une faute s'exclut de la collectivité par la faute qu'il commet, et l'objectif de la sanction, c'est de le réintégrer dans la collectivité. Il ne faut pas croire que c'est l'élève qui commet une faute, on va l'exclure pour lui faire punir sa faute. La sanction n'a pas pour objet d'exclure, c'est la faute qui exclut. La sanction réintègre. Et la parole éducative, si on veut qu'elle soit vraiment éducative, doit toujours être tripolaire, et on le trouve chez Freinet, comprendre ce en quoi le sujet est accidenté, ne jamais perdre de vue le cadre collectif et ses exigences, et enfin identifier toujours les ressources qui permettent au sujet de s'exaucer au-dessus de toutes les fatalités. Et enfin, terminons par la 10e exigence, mais on pourrait les multiplier sur ce que nous dit vraiment la pédagogie, promouvoir le sujet mais sans confondre les statuts. L'enfant n'est pas un adulte, et chez Freinet c'est très clair, il n'y a absolument aucune ambiguïté là-dessus, c'est un être qui a besoin d'être éduqué, et à ce titre il nous faut distinguer le sujet politique, qui correspond à la majorité légale, qui permet d'être citoyen, le sujet psychologique, dont le développement est très différencié selon les personnes et qui requiert des accompagnements spécifiques, voire des interventions si l'humain est mis en danger, du sujet éthique qui doit être reconnu et promu sans condition dans l'élève. Ce n'est pas parce que le pédagogue, et Freinet en particulier, dit que l'élève est un sujet éthique qu'il nie qu'il est un enfant alors que lui est un adulte. L'affirmation que l'élève est à respecter comme sujet éthique ne signifie pas l'abolition de la dénivellation entre l'adulte et l'enfant. Et là-dessus, je crois que Freinet est extrêmement clair et que c'est difficile à penser parce que c'est penser à la fois l'égalité et l'inégalité. L'enfant est éthiquement mon égal, c'est-à-dire il est déjà un sujet éthique. En tant que tel, je dois le respecter comme sujet éthique et interpeller en lui ce en quoi il est un sujet éthique. Mais néanmoins, il reste un enfant et il ne peut pas de tout décider. Il y a un certain nombre de choses doivent être assumées clairement par l'adulte. Je vous ai dit que j'en avais 10, et en fait, il y en a un cadeau, il y a un bonus, il y en a un 11e. C'est l'éducation à la citoyenneté, dont on fait tant de cas aujourd'hui, à juste titre, mais sans présupposer ce que l'on doit former. La formation à la citoyenneté, ce n'est pas la mise en place de caricatures de démocratie. Et là-dessus, Freinet, me semble-t-il, est extrêmement précis. Le conseil de coopérative, c'est un espace, des règles, des rituels, c'est des ressources, c'est toute une série d'exigences qui sont incarnées et tenues par l'adulte. Ce n'est pas le n'importe quoi érigé en permanence. Bon, en fait, j'en avais 12, même 13, donc je laisse. Alors, je vais conclure. Je vais conclure parce que le temps est arrivé et qu'il nous faut avoir un temps de débat. La pédagogie, est-ce un don, une science ou un art? Alors, je vais conclure, mais pour cela, il me faut aller sur la diapositive correspondante. Je crois que la pédagogie n'est pas un don, même si il ne faut pas se le nier, elle peut être facilitée par des trajectoires et des expériences personnelles. Je pense que, par exemple, des gens qui ont des expériences personnelles dans le domaine de l'animation, de la culture, des loisirs, etc., peuvent entrer peut-être plus facilement que d'autres dans des carrières d'enseignant, ce que l'éducation nationale récuse ni farouchement aujourd'hui. Je crois aussi que la pédagogie n'est pas une science, puisqu'elle travaille avec des personnes et doit en permanence faire avec l'autrement que prévu. L'autrement que prévu. Dans la science, on ne fait qu'avec du prévisible. Par définition, la science reconduit toujours des protocoles. Et tout doit être conforme à ce qui était prévu. Eh bien, par définition, les enfants sont imprévisibles et il y a toujours de l'autrement que prévu. C'est la raison pour laquelle je dirais volontiers que la pédagogie est plutôt un art de faire. Un art de faire au sens où Michel de Certeau définit la notion d'art de faire, c'est-à-dire la capacité d'avoir des savoirs issus de l'histoire de la pédagogie, la capacité d'avoir une réflexivité, une réflexion permettant de juger de l'opportunité et de la pertinence d'une utilisation, et la capacité aussi d'avoir une créativité individuelle et collective pour réactualiser en permanence le projet qui fonde la pédagogie. C'est pour cela que ce qu'il y a de plus merveilleux dans le travail de Célestin Freinet et dans ceux qui perpétuent sa mémoire et son œuvre, c'est la façon dont il nous revigore en permanence pour que nous relevions, que nous réfléchissions, que nous avancions et que, fidèles à quelques principes forts, nous puissions contribuer dans ce monde qui en a plus que jamais besoin à faire en sorte que nos enfants soient moins des êtres manipulés par les marchands que des êtres capables, comme le disait Pestalozzi, de se faire œuvre d'eux-mêmes librement pour créer ensemble un monde plus juste. C'est ce que nous pouvons espérer de mieux. Merci de votre attention.